Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à ce tout premier épisode de la série Rembobinage, une émission, vous l'aurez deviné, sur le cinéma. Je suis en compagnie de mon collaborateur Jean-Simon Fabien. Salut Jean-Simon.
Salut Hugo.
Alors, ensemble, on va écouter des films, on va en discuter par la suite. Évidemment, on ne les écoutera pas avec vous, chers auditeurs. On a quand même préparé un peu nos choses à l'avance. Et donc voilà, on va parler cinéma, on va parler 7e art. Et donc, premier épisode, Jean-Simon, on a décidé d'y aller mollo, un petit thème léger, tout à fait...
Si peu
lourd, si peu d'actualité. En fait, c'est à l'inverse, c'est tout à fait d'actualité, parce que bon... Ces jours-ci, on assiste à la progression peut-être inexorable de l'enquête, en fait, de l'enquête sur la campagne de Donald Trump et parallèlement à cette espèce de chaos organisé qui se déroule à la Maison-Blanche. Et bon, on avait discuté, toi et moi, on jasait un peu de ça, on s'est trouvé un premier film pour lancer cette série Rembobinage.
Oui, bien sûr. Et ça ne sera pas un film de Michael Moore.
Non, effectivement, même si Fahrenheit 11-9 est sorti récemment.
Oui, il fait beaucoup jaser, mais on sent qu'il y a quand même des forces qui s'organisent pour torpiller la campagne de Trump en vue de l'élection de mi-mandat. Donc, on sait que Bob Woodward, le fameux journaliste qui a participé à débusquer finalement l'affaire du Watergate, il a mis son grain de sel il y a déjà 2 semaines avec la publication d'un livre assez sulfureux qui montre que Donald Trump est complètement inapte à gouverner.
Donc, le livre qui s'intitule « Fear », on avait déjà eu un précédent livre sur les dessous de la Maison-Blanche, mais là, je pense qu'on a l'impression qu'on veut mettre un autre clou dans le cercueil.
Oui.
Et donc, on a décidé de rester dans cette thématique et de, justement, s'intéresser à un film qui relatait donc à l'époque la fameuse affaire du Watergate. On a décidé d'écouter pour vous « All the President's Men ». Alors, « The President's Man » sorti en 1976. Est-ce qu'on peut parler d'un thriller, d'un drame?
c'est un drame journalistique. Est-ce que c'est un genre de cinéma en soi? On parle souvent de drame judiciaire. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut dire que c'est un drame journalistique qui relate évidemment l'enquête qu'a menée deux journalistes du Washington Post, qui sont justement un jeune Bob Woodward et son acolyte Carl J. Bernstein. Les deux sont joués respectivement par un Robert Redford en forme, mais tout en complet. D'époque et de couleurs, et un jeune Dustin Hoffman très fougueux avec la chevelure bien au vent.
Donc, les années 70 avec les dactylos dans la salle de presse, des centaines de journalistes et évidemment des cigarettes. Tout le long du film, on fume et on n'arrête pas de fumer. mais bon, donc, l'affaire du Watergate, pour ceux qui n'ont pas connu, pour ceux qui n'ont pas étudié un peu cette période de l'histoire, là, c'était l'entrée par effraction d'un... En fait, ça débutait comme ça, mais c'était pas ça la base de l'affaire. Mais bon, donc, il y a eu une entrée par effraction d'un groupe de voleurs, un groupe de gens qui s'introduisent donc illégalement dans le quartier général du Parti démocrate, dans l'immeuble du Watergate à Washington.
Oui.
Ces gens-là se font coincer et on se rend compte que petit à petit, ces gens-là sont liés au Parti républicain, sont liés à la campagne Nixon en vue de sa réélection en 1974, dans le film, qui est basé sur le livre écrit par messieurs Woodward et Bernstein, dans le film, on suit donc la progression de cette enquête journalistique. Une enquête un peu différente, parce que, on disait drame journalistique, il n'y en a pas tant que ça, peut-être, dans ce genre-là. Parce que on n'aura pas de course-poursuite folle dans les rues de Washington, on n'aura pas de fusillade, il n'y a pas d'assassins. On suit donc nos deux journalistes qui font du journalisme. Qui
exactement. Oui. Cherche des sources, qui cherche à faire confirmer des informations.
Voilà, passe beaucoup de temps au téléphone, vont voir des gens, se font refermer la porte au nez, et donc pose des questions, essaie un peu de coincer des gens, suivre le chemin de l'argent aussi. Bon, toute une question du financement là, dans ce film-là. C'est la deuxième fois que je voyais ce drame journalistique. Bon, je l'avais vu il y a quelques années. Et plusieurs choses qui m'ont surprise, en fait. D'abord, le fait que le film est sorti en 1976, seulement 2 ans après la démission de Richard Nixon. Donc, je ne veux pas dire abdication, on n'était pas jusque-là. mais donc, c'est ça, démission dans la foulée de l'affaire du Watergate. Il y avait toute une histoire aussi de Watergate, c'est non seulement l'introduction, ben, c'est pas le bon terme, mais bref, l'entrée par réfraction dans la bâtisse, mais ça a développé, et on est arrivé...
C'était la pointe de l'iceberg.
La pointe de l'iceberg, effectivement, et ce qui est arrivé éventuellement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu des discussions secrètes dans le bureau ovale avec le président et avec ses conseillers.
Pour carrément torpiller la campagne du candidat républicain dès l'époque des primaires, oui. Donc ça commence vraiment en amont de l'élection, et puis de ce qu'on comprend, c'est que les républicains avaient un candidat en vue qu'ils voulaient affronter.
Oui.
Donc, ils se sont arrangés pour torpiller la campagne de celui qui était le meneur avec des faux articles journalistiques, des fake news finalement,
déjà à l'époque. 40 ans avant le temps.
Donc, on créait des faux scandales sur le candidat et puis qu'il l'empêchait finalement de galvaniser ses troupes, de faire une campagne de contenu et qui était toujours finalement dans la réaction à chaque fois qu'il arrivait sur son parcours de campagne pour la primaire. Ah, un nouveau scandale sur lequel il faut répondre. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que la politique à cette époque-là, ça jouait aussi déjà pas mal en bas de la ceinture.
Ça jouait dur pas mal. Mais donc, c'est ça, on avait des discussions secrètes dans le bureau ovale et on s'est rendu compte que Richard Nixon enregistrait tout ce qui se disait dans le bureau ovale sur des bandes magnétiques à l'époque. Bon, on n'avait pas de MP3 et autres. En même temps, la technologie musicale, on est de retour au vinyle, donc je ne sais pas à quel point on a progressé. Mais bref, donc, on avait des bandes secrètes et... Je pense que ce qui a un peu finalement coulé Nixon, parce que bon, il était déjà assailli de toutes parts, il y avait déjà des enquêtes, mais ce qui a, d'après moi, coulé Nixon, c'est le fait qu'il manquait une bobine. Il y avait eu une discussion secrète qui parlait justement de torpiller, bon, ça revenait sur cette histoire-là, de torpiller la campagne du candidat démocrate, et il y a eu, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait soit une bobine, soit une section de bobine, là, c'est un peu flou dans ma tête, qui n'était pas là, même il y avait eu l'enregistrement quand même. Et bon, là, on voulait savoir, les journaux ont dit « qu'est-ce qui se passe? Où est la bobine manquante? » Et ça a mené, entre autres, à cette fameuse déclaration de Nixon qui dit « I'm not a crook. »« Je ne suis pas un pourri. » Et bon, finalement, c'est un pourri. Alors,
c'est lui qui dit.
Voilà. Mais donc, « All the President's Men » sorti seulement 2 ans après la démission de Nixon. Le livre, bon, sorti, je pense qu'on se disait tout à l'heure, sorti en 1974.
Assez rapidement.
La même année. Bon, ce qu'il faut savoir également, ce livre-là, bon, « All the President's Men » est le premier de 2 livres écrits par messieurs Woodward et Bernstein sur l'affaire du Watergate. Le deuxième livre, bon, on n'a pas donné lieu à une adaptation en film, mais bon, existe quand même, là. Bon, je crois que j'en ai même une copie, là, ici à la maison, quelque part dans la bibliothèque. Donc voilà, donc All the President's Men.
Mais moi aussi, la rapidité, l'étrange, j'oserais dire, rapidité avec laquelle le film est sorti après le livre, est assez intéressante. Et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'on a un Robert Redford qui est déjà bien installé à Hollywood, mm-hmm. qui a des idées très, très proches du Parti démocrate, on peut le dire, et qui lit le livre de Woodward et Bernstein et qui est complètement transpercé, bouleversé par ce récit journalistique-là. Il décide d'acquérir les droits d'adaptation du livre pour 450 000 $ américains dans les années 70.
C'est quand même beaucoup d'argent.
Oui, avec la promesse justement d'en faire un film pour un budget de 5 millions. Donc, c'est probablement l'excitation ou la motivation la motivation peut-être même militante de Robert Redford à faire le film qui a précipité finalement la chose. Et puis l'histoire se termine pas non plus avec Nixon qui démissionne, mais il y a eu des procès qui se sont terminés là en 75 et jusqu'au début de 76. Donc le film se termine justement avec... Il n'y aura pas de punch ici, c'est un film historique,
mais
le film se termine avec des manchettes qui sont en train d'être écrites par un scribe là, ou un...
Je pense que c'est un téléscripteur, c'est l'ancêtre du fil de presse.
Ouais.
Là, voilà.
Donc, les manchettes nomment finalement les proches de Nixon qui sont tombés dans l'histoire. Donc, ceux qui ont organisé ce système de couverture et de détournement de fonds pour justement faire cette campagne de salissage contre les démocrates.
Donc, effectivement, c'est assez intéressant à voir. Puis, en fait, il y a une question que je me posais, parce que, en fait, c'est ça, il n'y a pas, tu disais à l'instant, ça ne t'amène pas avec le grand clash, avec l'affrontement final en disant, bon, Nixon qui se défend, puis finalement, Nixon qui doit démissionner. On se termine ça avec du texte à l'écran, avec un bruit de téléscripteur.
En fait, juste avant qu'on tombe sur les manchettes au téléscripteur, il y a un extrait du discours de victoire de Nixon.
Enfin, l'inauguration, inauguration de Nixon.
Ouais, donc ça, c'est un élément qui est intéressant du film, qui reprend justement des archives qui sont pas tant vieille que
non,
ça non
ça, à
plus.
L'époque, effectivement.
Donc, l'intégration de d'archives à même le film est très intéressante. Mais c'est ça, c'est tout à fait intéressant de voir qu'ils l'ont fait vraiment à chaud. Là.
Voilà. Mais c'est ça ce que je me demandais, parce que, bon, on connaît tous l'histoire du Watergate, et pour des journalistes, puis on pourra y revenir un peu plus tard, c'est stimulant de voir des journalistes faire du journalisme et avoir des résultats à ce point-là probants. Je pense que ça demeure l'enquête la plus connue, avec les résultats les plus importants.
Ouais.
Mais si on se dit, imaginons que c'est pas basé sur des faits historiques. Imaginons que ça parle d'un président X, qui n'est pas le président américain, qui n'est pas Nixon, c'est pas le Watergate. Est-ce que ça reste un bon film? Est-ce que ça reste un film intéressant?
Mais ça reste clairement un film qui est moins intéressant à réécouter aujourd'hui.
Mm-hmm.
Moi, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que comme film de genre, si on accepte que le drame journalistique est un genre en soi, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé. Si on regarde récemment, il y a Spotlight qui est paru. Encore une fois, on suit une équipe de journalistes, une équipe restreinte, leur lien avec leur chef de pupitre, la manière dont ce chef de pupitre-là doit faire pression sur les patrons du journal pour faire publier l'histoire et tout ça. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Bon, des formations professionnelles oubliées. Ça va être pareil pour toi, Hugo, mais donc c'est ça, on se rend compte que les codes de ce genre de film-là sont assez intangibles. Cela dit, si on retourne à All the President's Men, c'est un film qui a un peu mal vieilli, il n'y a pas beaucoup de contraste dans l'image, quand les scènes à l'extérieur sont inintéressantes parce qu'on voit pratiquement rien.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a eu un beau travail qui a été fait dans les décors, à l'intérieur de la salle de nouvelles, les petites unités là, de bureaux de couleurs avec l'éclairage, c'est très beau, c'est très moderne. Mais sinon, sur ses qualités formelles, c'est sûr qu'il y a le jeu des acteurs qui est incroyable.
Oui.
Mais non, si c'est pas une histoire qui était réelle, ancrée dans le réel, je suis pas sûr si on y retournerait ou si souvent. Moi, je pense que c'était la 5e fois que je le voyais. Là.
Ah, bon, à ce point-là.
Ouais.
C'est intéressant aussi, tu parles de Spotlight, qui était un très bon film, ça a gagné des prix.
Ouais.
Bon, ça, c'est venu relancer un peu l'idée comme quoi c'est essentiel d'avoir du journalisme d'enquête. Puis bon, malheureusement, les scandales sexuels liés à l'Église catholique, ça se poursuit aux États-Unis, puis bon, ailleurs, mais surtout aux États-Unis. Mais c'est intéressant aussi, selon moi, c'est de voir que... Parce qu'aujourd'hui, bon, on fait des enquêtes, mais on fouille en ligne, on va voir des sites Internet. Si on prenait un style plus moderne, puis on disait, bon, mais le film, c'est une heure de temps, la personne est devant son écran,
elle
code un robot pour chercher des données ouvertes, puis à ce moment-là, elle tombe sur des résultats, puis pendant 35 minutes, vous la voyez jouer dans Excel, puis essayer d'arranger ses données pour avoir quelque chose de probant, on perd tout intérêt.
Ouais, probablement,
Spotlight,
ouais.
C'était ça aussi, c'est d'aller voir des vieilles archives, d'aller parler à des gens, d'aller cogner à des portes. Faut rendre le journalisme sexy aussi.
Oui, mais je pense que le journalisme moderne, comme on l'imagine devant un écran, c'est une part du journalisme. Mais quand on regarde les journalistes qui ont travaillé sur tous les scandales liés à la corruption, ça restait un travail de terrain, ça restait un travail de confirmation de sources, de jaser avec des gens, de faire valider, contre-valider. Donc, ça nécessitait une présence de l'équipe d'enquête sur le terrain qui était de tous les jours. C'est un tel veut parler. J'imagine que l'enquête est débloquée quand Ken Pereira a décidé d'arriver avec ses enregistrements.
Voilà.
Donc, il y a tout ça qui font progresser l'enquête. Je pense qu'on ne peut pas dire en 2018 que c'est la fin d'un genre cinématographique parce que justement, il va continuer à avoir des enquêtes qui vont être faites où il va nécessiter d'aller se faire confirmer des informations par des gens qui étaient là, des témoins oculaires pas nécessairement oculaire, mais des gens qui peuvent nous amener un petit peu plus loin, du moins.
Mais bon, des fois, aujourd'hui, c'est peut-être...
Mais le journalisme de rédacteur de salle de nouvelles,
oui.
Ça, c'est moins intéressant.
Oui, voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être parfois même plus facile de faire une enquête. On attend que Trump tweet des informations secrètes et on se dit, bon, ben voilà. Je me rappelle, justement, il y avait eu une déclaration d'un journaliste qui disait, ça fait des semaines que je travaille là-dessus, j'ai appelé des sources. Puis là, il a juste tweeté l'information. Et donc, tout mon travail sert un peu à rien. Et donc, voilà, on passe à la suite.
Déjà qu'on qu'on était scandalisé que Maxime Bernier ait laissé un document secret chez son ex-blonde. Et là, quand un président tweet des informations classifiées, c'est une autre histoire. Peut-être que c'est covéfé, je ne sais pas trop.
Peut-être
là,
c'est un code secret.
C'est peut-être quelque chose de crypté. Il faudrait mettre quelqu'un là-dessus.
Il ne s'est pas juste assis sur son téléphone. Bon, toujours dans The President's Man, bien sûr, on a les fameuses scènes avec la source secrète, avec Deep Throat, qui est également, bon, outre le titre d'un film qu'on, pour adulte, mais surtout, c'est ça, le nom de la source, et la source de Bob Woodward,
et qui se rencontre dans un garage. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est le fameux cliché de la source secrète. Il se rencontre dans un garage, c'est la pénombre, il ne voit pas vraiment la face du gars.
Il prend deux taxis pour se rendre, il change de chauffeur.
Il change de chauffeur, il ne veut pas se faire suivre. Et d'ailleurs, même la scène où il y a un bruit à un moment donné, Bob Woodward se retourne, et là, en revenant à sa position initiale, la source a disparu.
Ouais.
Et je me dis, bon, c'est tout à fait cinématographique, ça fonctionne très bien au cinéma, mais dans la vraie vie, ça peut pas fonctionner.
Non, surtout dans un garage.
Dans un garage, t'entends le gars partir à la course,
ouais.
Puis là, tu dis, il n'y a pas le temps de sortir de la pièce, je veux dire, je le vois courir, pourquoi tu t'en vas?
Ouais.
Puis c'est ça aussi, c'est un peu les fameuses scènes où les gens, les protagonistes se rencontrent dans une place un peu abandonnée, industrielle, puis ils ont tous mis 20 minutes à y aller en voiture. Là, après ça, c'est fini. Mais là, la scène coupe et nous, on voit pas la suite.
Ouais.
Moi, j'imagine la suite. Bon, ben, je te suis ou tu me suis?
Il y a une scène qui fait pas trop de sens. Bernstein appelle Woodward chez lui.
Mm-hmm.
Il s'est assoupi sur son lit. Puis là, Bernstein lui demande, et puis ton rendez-vous avec ta source. Puis il était comme, oh merde, j'ai oublié.
Ouais.
Donc, il s'est endormi. Donc là, il se rend en deuxième vitesse à son lieu de rencontre. Et la source est encore là.
Oui.
On s'imagine que la source aurait pas resté là plus de 15 minutes, surtout si, bon, le message que la source lui dit à ce moment-là, c'est que bon, peut-être que leur vie est en danger ou quoi que ce soit. La pression se referme sur le petit groupe. Donc, moi, si j'avais été une source, j'aurais pas passé 2 heures à attendre. J'aurais comme fait, bon, on va remettre ça.
Effectivement, mais bon.
C'est un film, effectivement. Il faut créer un peu de tension.
Faut rendre ça cinématographique. À quel point est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? J'imagine que dans la vraie histoire, puis même si on en voit une partie, mais dans la vraie histoire, ça dure beaucoup plus de jours et d'heures à éplucher des documents, à ne pas pouvoir parler à des gens parce que ces gens-là ne veulent pas parler.
Ouais.
On enlève ça. Quand une fois, on disait, bon, le journalisme d'enquête aujourd'hui, c'est peut-être moins sexy. Le journalisme d'enquête à l'époque, c'était certainement pas toujours sexy non plus.
Ah non, j'étais frappé. Il y a beaucoup plus d'appels téléphoniques au début du film, mais ça coupe un rythme hein, quand, dans les années 70, on fait un numéro de téléphone avec le téléphone à roulette. J'étais comme, mais mon Dieu, ce domaine est interminable. Est-ce qu'il va le faire, son appel?
Là, ils se disent, ils prennent les notes avec un calepin. Après ça, ils vont voir leur rédacteur en chef en disant, I have the tape.
Le verbatim.
J'ai le verbatim. Oh, mais t'as griffonné quelque chose.
Je me suis questionné à savoir si les téléphones au journal n'étaient pas tout le temps en train de rouler sur des
enregistreurs,
peut-être, parce que ça serait...
Je veux dire, ça existait, magnétophone, à l'époque, t'aurais pu le brancher sur un téléphone, puis dire, t'enregistres la conversation.
Tous les téléphones du journal sont enregistrés. C'est bon pour les assurances du journal, j'imagine.
Ah,
aussi.
Peut-être aussi. Puis bon, il y a également un nombre étonnant de gens au journal qui sont sortis avec des... ou qui ont fréquenté des gens du Parti républicain, et là, qui peuvent donner des informations secrètes pour faire avancer l'enquête. Mais bon, on va enlever, peut-être, on va faire abstraction, sans doute, de tous les petits accros là, du film, parce que ça reste... Encore une fois, toi et moi, on est journaliste. Bon, toi, ça fait 5 fois, donc peut-être l'excitation est passée un peu.
Mais ça faisait quand même très longtemps que je l'avais vu.
Mais tu sais, je l'ai réécouté récemment et j'ai dit, ah oui, tu sais, faut fouiller l'information, puis oui, on va faire tomber les méchants, puis on va, ah oui, vous avez progressé, ça, c'est important, puis là, vous avez noté ça, puis ça, c'est une bonne chose, puis faut aller parler à vos sources, puis ah oui, vous avez... Bon, encore une fois, ça reste un film.
Ouais.
Mais on
et encore une fois, quand on retourne ensuite le lendemain au travail et qu'on écrit un texte sur les coyotes dans un cycle ou sur les pitbulls, on se sent un petit
ou
peu
les,
moins...
Ou les entraves à la circulation à Montréal.
Ah, mais ça, c'est important.
Oui, mais je peux te garantir qu'à chaque semaine, c'est Turco qui est en travaux.
Ouais,
Quelle surprise!
Ah oui.
Mais bon, il faut faire... Journaliste, c'est un service public d'habitude.
Tout à fait.
C'est important de faire les petits dossiers comme les gros, mais c'est sûr que tu t'es écouté All the President's Men, puis tu dis, ouais, moi aussi, je veux débusquer la corruption, puis on te demande de faire un texte faisant entrave routière. T'es comme,
peut-être demain.
Peut-être demain. Donc, le scandale, Richard Nixon, bon, on peut pas non plus passer sous silence le film Frost Nixon, sorti en 2008, ouais. Réalisé par Ron Howard, qui est un peu, qui n'est pas la suite comme telle, mais qui s'inscrit donc dans la foulée du scandale. C'est une série d'entrevues avec un journaliste, je pense, britannique.
Oui.
Qui est joué par Stephen Merchant.
Je pense que c'est ça, oui.
Je pense que oui. Donc, réalisé par Ron Howard, le film est donc, c'est ça, une série d'entrevues entre M. Frost et Richard Nixon, qui est, bon, est à la retraite, qui est évidemment démissionné, là, mais qui est donc a été pardonné par, par son successeur assez rapidement, merci. Et donc, qui est amené à se prononcer sur le scandale du Watergate. Et je pense que ça dure, bon, c'est ça. Là aussi, on a une structure de film assez atypique. Qui rappelle plus les films de l'époque, c'est-à-dire on n'a pas tout le temps une pression pour qu'il y ait une tension. On sait évidemment que le journaliste va essayer de pousser Richard Nixon, ouais, à parler du Watergate,
ouais,
et on sait qu'il va essayer de pousser à admettre sa culpabilité, parce que Nixon n'a jamais vraiment admis sa culpabilité dans cette, mm-hmm, affaire-là. Et donc on se dit, ah, est-ce qu'il va réussir à le coincer, est-ce qu'il va réussir à le faire parler? Mais ça reste un film où deux personnes se parlent, une en face de l'autre. Et c'est à peu près ça.
Ouais.
Encore une fois, on n'a pas de course-poursuite, on n'a pas, bon...
Mais c'est un film qui est intéressant parce que Frost Nixon, c'est aussi la politique à l'ère de la télévision.
Oui.
Donc là, on n'en parle presque pas dans All the President's Men. En fait, on voit que les journalistes Woodward, Bernstein sont rassemblés dans le bureau du directeur du journal, et puis ils regardent la télé en train qu'ils reprennent finalement leurs informations. Oui. Mais c'est le seul moment dans le film où on se rend compte que la télé est présente. On se rend compte que le journal, finalement, le Washington Post, est en vase clos, oui, un petit peu.
C'est très différent d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Mais Frost Nixon a fait une très bon travail finalement pour montrer l'importance de la télévision même à ce moment-là. Puis on sait, là, la télévision, ça a été énorme dans l'Amérique d'après-guerre. Mm-hmm. Quand c'est arrivé dans les chaumières, les gens étaient littéralement scotchés sur la télé. L'offre aussi télévisuelle était moins grande. Puis de voir ce personnage-là, je pense que M. Frost, qui était d'ailleurs joué par Michael Sheen, là, je viens de voir. Il me semble que c'était un animateur de variété. Hein. Il ne faisait pas normalement des entrevues politiques. Entrevues, voilà. Donc, il y a tout ça aussi. Bon, le président lui accorde en se disant, bon, c'est un journaliste de variété. Je vais moins me faire talonner, il est, mm-hmm, britannique. Finalement, lui, je veux relancer sa carrière. Donc, il y a aussi l'histoire humaine, hein, qui est derrière, mm-hmm, ça, qui est super intéressante.
Effectivement. Si on peut peut-être, peut-être en guise de conclusion, sans doute, est-ce que tu recommanderais All the President's Men?
Ben, je pense que pour tous les gens qui ont un intérêt soit pour la politique américaine et pour le journalisme ou pour les deux, c'est un film que vous avez probablement déjà vu. Donc, on est ici pour vous dire de le réécouter parce, oui, que c'est très pertinent, surtout dans le contexte, comme on disait en introduction. Sinon, ben, comme je vous disais, à part quelques petites failles là, techniques qui sont un petit peu agaçantes, là, comme les contrastes, c'est quand même un film qui a bien vieilli. C'est vraiment, mm-hmm, bien de voir les acteurs. La chimie entre les deux est vraiment bonne. Robert Redford est tellement un homme charismatique.
Oui, c'est un petit peu intense quand même.
Mais on a l'impression qu'il a joué un Woodward très Redford-esque, oui, là, parce que Bob Woodward, de ce que je comprends, est un être un petit peu plus sulfureux.
C'est quand même spécial parce que, bon, on a eu la publication récemment d'une conversation téléphonique de 11 minutes entre Woodward et Trump.
Oui.
Et en fait, il passe 11 minutes à pas parler de grand-chose de très important. On se dit, bon, t'as Donald Trump au téléphone. En fait, même si c'était pas Donald Trump, mais t'as le président des États-Unis au téléphone,
ouais,
pendant 11 minutes. Tu fais le parler, poser des questions, essaie d'aller chercher de l'information.
De l'étalonner, oui.
Peut-être que, bon, j'imagine qu'à l'écrit, Woodward demeure, ouais, une référence. Bon, Fear, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Parce qu'en fait, quand le livre est sorti, on se dit, bon, ben, ça vient exactement confirmer ce qu'on se disait de la Maison-Blanche. Puis on n'a pas nécessairement besoin de relire ce qu'on a lu dans, ouais, justement, dans le Post, dans le Times, dans le... mais c'est ça, de Woodward... bon,
c'était peut-être un petit stunt aussi, là, la conversation avec... Puis je veux dire, lui, il était assis sur ses informations.
Oh oui, absolument.
Il n'était pas pour non plus...
brûler son matériel.
Exactement. Voilà. Mais donc, grosso modo, il lui disait à Trump, il lui disait, ben voici ce que j'ai en main, grosso modo. Oui.
Voulez-vous commenter?
Exactement.
Mais donc, tu recommanderais All the President's Men?
Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Pour l'importance, je pense, du sujet qui a été le Watergate, pour cette belle incursion-là dans les années 70, pour les personnages, pour le jeu des acteurs, je pense que ça vaut absolument la peine d'y jeter un coup d'œil. Et puis, je dirais même que, hormis encore une fois les petits détails techniques, c'est un film de 76, mm-hmm. mais qui aurait pu être fait en 86. Parce que de toute façon, c'est un film qui met en scène le début des années 70. Donc, j'ai l'impression que il montre exactement une décennie. Mm-hmm. Puis l'année où il a été fait, finalement, ça paraît plus trop. Là. On fait des films en 2018 sur les années 70.
Oui.
Puis on a ce même souci du détail-là pour bien représenter la décennie. Alors, non, c'est vraiment intéressant. Puis moi, je pense que j'ai su... en quelle année le film avait été fait, la troisième fois que je l'ai écouté. Ah, okay. Donc, c'était juste ça, mon point.
Mais, fait que bon, on peut dire peut-être que si l'on tournait en 76, ça a dû leur coûter moins cher en recherche historique que si l'on tournait en 86.
Ouais.
Et pour retrouver des objets de l'époque, et des décors, des couleurs, des costumes.
Tout était là.
Ceci étant dit, moi aussi, je recommanderais fortement All the President's Men. Bon, évidemment, toi et moi, on est journalistes. c'est dur un peu de passer à côté. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça reste, selon moi... Je veux dire, il y a eu d'autres scandales, il y a eu d'autres affaires, il y a eu d'autres exploits journalistiques, mais c'est, dans l'imaginaire populaire, en tout cas certainement en Amérique du Nord, c'est le scandale qui a marqué, qui représente l'enquête journalistique.
Ouais.
N'en déplaise à Spotlight, là, qui est un très bon film.
Ouais.
Ce film-là, avec justement Redford, avec Hoffman, qui sont deux très bons acteurs, c'est quelque chose de flamboyant un peu.
Ouais.
Et autant, comme tu disais, bon, il y a des petits accros, autant effectivement ça vieillit en partie. Bon, autant c'est ça, ça reste le témoin d'une époque. Et qui peut dire, bon, ben voici ce qui s'est passé, et ça reste, d'après moi, un idéal journalistique, malgré le fait qu'ils ont des techniques d'enquête, à un moment donné, que c'est un petit peu...
Ouais, pour se faire confirmer la présence d'un cinquième impliqué dans une vaste entreprise voilà. de couverture, ce cinquième-là est le plus haut placé de toute leur liste de suspects, finalement, et puis, bon, ils se font confirmer l'information sur des espèces de joute discursive, là.
Ouais, ouais.
Ah, je ne veux pas confirmer, oui, mais confirme-moi en faisant ci, en faisant ça. Ah oui, non, mais finalement, donc, ils se sont fait prendre à leur propre jeu.
C'est ça, c'est qu'un coup, un moment donné, ils disent, ah, ben si c'est vraiment la personne, reste en ligne, je compte jusqu'à 10, puis reste en ligne, parce que je sais que tu ne peux pas le dire officiellement. Je dis, bon, c'est un petit
dans
peu...
Dans la tradition anglaise, c'est ça, il dit, je lui ai dit, je vais compter jusqu'à 10, puis si tu n'as pas « hang up », mais finalement, lui, ce que l'autre a compris, c'est hang on.
Ouais.
Donc, là, c'est pas tout à fait pareil. Là. Donc,
reste
là, c'est
en
comme...
ligne plutôt que raccroche.
C'est ça.
Disons que ça passerait pas aux normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada.
Mais ils sont fait chicaner aussi.
Ils sont fait chicaner aussi. Mais disons que le conseil de presse en mêlerait aujourd'hui.
Ouais.
Et disons que ça augurerait mal pour le travail de ces journalistes-là. Donc, voilà, forte recommandation, solide recommandation pour All the President's Men. Je pense pas qu'il soit sur Netflix. J'ai pas cherché. On a trouvé pas d'autres moyens pour retrouver une copie. mais bref, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, faites-le. Ça vaut vraiment la peine. C'est quoi, c'est 2 heures? 2h15, donc 2h15 bien dépensé. Donc voilà, rembobinage, c'est la fin de ce premier épisode. Jean-Simon, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Yo.
D'avoir été là. Donc, et à ceux qui nous écoutent également, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous... oui, évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés. Ça paraît qu'on est extrêmement préparés pour cette émission.
Quand même.
Bref, merci d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos épisodes, bien entendu, sur pieuvre.ca. On est également sur SoundCloud et sur iTunes. À la prochaine!